Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Icône avec Joël Dicker. Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Vous ne vendez pas vos livres par centaines, ni par milliers, ni par centaines de milliers, mais par millions. C'est le cas encore avec l'énigme de la chambre 622. J'ai bien cherché dans votre vie et les icônes sont assez rares, en tout cas de façon apparente.
C'est vrai. C'est vrai, et peut-être parce que j'ai l'impression qu'un écrivain n'a pas forcément, c'est mon avis uniquement, n'a pas forcément vocation toujours à se raconter. C'est-à-dire à parler de lui-même, à parler de ce qui l'a poussé vers ce métier, vers cette passion. Peut-être parce que l'écriture elle-même a quelque chose de mystérieux, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un écrivain au fond ? Est écrivain,
et en plus,
celui qui écrit.
Vous avez une façon très particulière d'écrire, c'est-à-dire que vous commencez sans savoir ce que vous allez faire.
Et exactement, je travaille sans plan, avec la question, et la première question que je me pose au fond n'est pas tant la question de l'idée, de me dire de quoi ça parle, qui est là-dedans, quelle est la fin du livre, mais de me dire est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai envie d'écrire un livre ? Est-ce que j'ai envie de consacrer 3 ans de ma vie, 12 heures par jour, à me lancer dans cette aventure ? Et je crois que c'est la question la plus importante quand on fait quoi que ce soit qui nécessite un peu de création, c'est-à-dire cette partie de soi-même qu'on identifie très difficilement. Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que l'inspiration? D'où est-ce que tout ça vient? C'est quelque chose de peu tangible.
Alors vous avez côtoyé des écrivains très tôt, Albert Cohen en particulier?
Oui. Albert Cohen, qui est à la fois...
Est-ce que c'est une icône pour vous ?
C'est une icône. C'est une icône parce qu'il représente, il fait partie de ces écrivains qui représentent quelque chose à la fois pour moi comme lecteur. Et Albert Cohen a eu une incidence à 2 reprises. D'abord, sans le lire, mais en écoutant le livre de ma mère qui était joué dans un théâtre à Genève, qui était raconté, qui était lu. Et j'avais été extrêmement ému par la connexion que je ressentais avec lui, que je pouvais ressentir dans ces passages qui se passent à Genève. Donc il y avait comme ça une connexion très forte.
Chez vous ?
À Genève, chez moi, absolument. Ouais. J'ai eu ensuite une connexion très forte avec l'auteur aussi, en lisant Belle du Saint-Seigneur, évidemment, qui est un livre absolument extraordinaire, qui est le livre qui m'a donné la passion de lecture. Je crois que c'est un livre, sa version poche doit faire 1200 pages. Et je me souviens que chaque page que je lisais, je me disais oh, plus que 950 pages, oh, plus que 900 pages. C'est-à-dire que chaque page était tellement extraordinaire que je me disais que 1200 pages, c'était pas assez. Et puis ensuite, j'ai découvert que je connaissais indirectement l'homme qui habitait pas très loin de chez mes grands-parents. À Genève, il habitait avenue Krieg, mes grands-parents avenue Bertrand, donc c'est à 300 mètres, et ils se connaissaient bien. Et mon oncle m'a raconté l'avoir vu chez lui, dans sa robe de chambre, fumant ses cigarettes. Et donc j'ai ensuite eu ce passage à l'homme qui a été un homme, au fond, pas contemporain, parce que je ne l'ai pas connu, il est mort en 81, mais qui était un homme qui a été comme ça, parmi les miens, et dans les anecdotes, mon grand-père est allé chercher François Mitterrand à la gare. À ce moment-là, François Mitterrand n'était pas encore président, donc ça devait être en 80 que Cohen est mort. Et il l'a amené de la gare au cimetière de Verrier, à Genève, où Cohen est enterré. Et je me souviens que l'histoire disait que ma grand-mère avait copieusement engueulé mon grand-père en lui disant « Mais comment tu peux aller chercher Mitterrand dans une voiture aussi sale ?» Et donc voilà, Albert Cohen a ce côté très iconique de ce que ça représente pour moi en tant que lecteur et aussi de ce petit passage qu'il a eu dans ma vie.
C'est une référence littéraire, une référence d'écriture aussi pour vous ?
Aussi, la référence d'écriture est toujours difficile à identifier clairement. La seule référence d'écriture que je pourrais identifier parfaitement, c'est Marguerite Duras, parce que j'avais l'impression, en lisant son texte, que c'était les mots. D'ailleurs, c'est elle, hein, mais il y avait vraiment je me disais, mais on a l'impression que chaque mot est tellement choisi et tellement important que si on en enlève un, tout le texte tombe. Comme si les mots étaient des briques qui construisaient un mur. Alors que chez Cohen, ou chez Gary, ou chez ces écrivains-là qui m'ont marqué, j'aurais beaucoup de difficultés à exprimer clairement qu'est-ce qui m'a frappé. Dans l'écriture, parce que l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est le mot ? Est-ce que c'est le sens des mots ? Est-ce que c'est le choix des mots ? Est-ce que c'est la façon de raconter ? Est-ce que c'est la façon dont ils s'imbriquent ensemble ? Est-ce que c'est la phrase ? Mais il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que ça, pour moi, c'est la magie de l'écriture, c'est de ne pas pouvoir expliquer vraiment ce qui vous a frappé.
Je sais que c'est derrière écrire, c'est avoir cette espèce d'arrière-pensée sourde, toujours. Cette espèce de chambre qu'on a en soi, chambre d'écho.
Et est-ce que les héros de, votre, de vos romans deviennent des icônes pour vous ?
Non. Les héros de mes romans ne sont qu'une prolongation de moi, je crois. C'est-à-dire qu'on crée des personnages et qu'on le veuille ou pas, ils sont forcément un peu nous. Parce que d'abord, on les crée, c'est-à-dire qu'on les imagine, c'est-à-dire qu'on les conçoit, on les construit, on leur donne une identité physique, surtout on leur donne un nom, donc ça veut dire qu'ils viennent de nous quand même. Et puis surtout, en tant que romancier, on va les mettre dans des situations auxquelles ils vont devoir réagir, et c'est-à-dire que leur réaction va être une projection de notre part à nous. En mettant mon personnage face à un choix et en faisant ce choix pour lui, je me mets à sa place et donc je me projette moi, et donc c'est bien moi, Joël, à ce moment-là. Et donc ces personnages-là ne sont qu'un tout petit peu de moi.
Est-ce que votre éditeur Bernard de Fallois, qui est parti il y a quelques temps et qui est présent dans votre dernier roman, est une icône ?
Oui, c'est une icône. Ça a été un homme extrêmement important. C'est une icône aussi dans la définition que je donnerais, c'est-à-dire à la fois quelqu'un que j'ai admiré, à qui j'ai voulu ressembler, et toujours maintenant dans ce qu'il a pu être, de son intelligence, sa classe, la personne qu'il a été, la trace qu'il laisse aussi. Hein. C'est-à-dire que dans l'icône aussi, je vois non seulement la personne telle qu'elle a pu être ou telle qu'elle est, mais aussi ce qui reste après. Et c'est ça la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on laisse une fois qu'on n'est plus là ? Quelle est cette trace ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Et pour moi, Bernard de Fallois a été un homme extrêmement important parce qu'il m'a donné cette envie de vivre, presque, je dirais, cette envie d'être qui je suis. J'étais, quand je l'ai rencontré, un écrivain très contrarié parce que j'avais écrit des romans que personne ne voulait lire, qui n'existaient pas en tant que roman, c'était du papier chez moi quelque part. Et je me sentais écrivain pourtant. C'est difficile d'être un écrivain parce que un écrivain est écrivain parce qu'on lui dit, parce que les autres vous reconnaissent en tant que tel, parce que vous avez des lecteurs, des gens qui vous disent « mais tu es écrivain ». Mais soi-même, de se définir écrivain, c'est compliqué. Et donc j'avais cette difficulté à l'intérieur de moi de me dire « je me sens écrivain ». Pourtant, quand les gens me voient, me disent pas spécialement « tu es un écrivain » parce que j'avais pas de livre existant. Et Bernard a été le premier à me le dire, a été le premier à me considérer en tant que tel. Et il a été celui qui a permis mon éclosion, c'est-à-dire cette possibilité pour moi d'affirmer et d'être ce que je ressentais que j'étais à l'intérieur.
C'est lui qui vous a conduit au succès ?
C'est lui qui a fait le succès.
Ouais.
C'est-à-dire que ce succès-là, c'est évidemment un peu le mien, mais c'est surtout le sien. C'est un succès auquel il a cru. Avant tout le monde et avant moi-même. C'est-à-dire qu'il me disait, vous allez voir, Kébert va avoir un succès. Avec cette grosse voix comme ça. Il me disait en juin 2012, Kébert va avoir un succès incroyable, vous verrez. Je lui disais, mais non, mais qui va lire ce bouquin? C'est trop gros, c'est très américain, c'est un policier, ça marchera jamais. Et lui, il croyait.
Ouais.
Et lui a construit ce succès parce qu'il y croyait tellement qu'il a réussi aussi à emmener avec lui dans son sillage des gens qui ne me connaissaient pas, qui ne m'avaient pas lu, mais qui, face à l'excitation de Bernard, ont eu envie d'y croire aussi pour lui. Et je crois que ça, c'était sa force à lui d'être capable d'emmener, de fédérer, de persuader et d'arriver à ses fins.
Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé « La vie devant soi ».
Est-ce que dans le monde de la littérature, vous avez d'autres icônes ?
Romain Gary. Romain Gary est probablement l'auteur qui m'a le plus marqué par son existence. Je ne l'ai pas connu, évidemment, mais l'existence de l'homme qui m'a frappé avant de le lire, mais de découvrir cet homme qui a eu mille vies, qui a été pilote de guerre et ambassadeur de France et écrivain et qui a tout fait, qui a tout vu. C'est cette vie tellement extraordinaire qui est un roman et en même temps romancier. Et j'ai été frappé par Romain Gary quand j'étais encore très jeune parce que je voulais un serpent. Je devais avoir 12 ans et je disais à mes parents, j'aimerais tellement un serpent. Et
vous écriviez déjà dans la Gazette des animaux.
J'écrivais déjà des animaux, absolument. J'étais fan des animaux, fan des reptiles, j'étais attiré par les serpents, je voulais absolument un serpent. Et mes parents, qui ne voulaient évidemment pas, me disaient, lis Gros Câlin, Émile Ajar. Et j'ai découvert un jour Gros Câlin dans une bibliothèque et je l'ai ouvert, j'avais pas envie de lire, je disais, qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'ouvre ce livre et à l'intérieur, je devais avoir 11, 12 ans, je découvre le mot « pute ». Et je me dis, ça c'est extraordinaire. Un mot que si je prononce chez moi, on me flanque une gifle. On me donnait pas de gifle, mais une conséquence. Alors que là, on me dit, lis ce livre dans lequel il y a des mots qui sont interdits. Et j'ai lu Gros Câlin et j'ai découvert Émile Ajar, Romain Gary, j'ai découvert Gary et sa vie absolument incroyable, et j'ai dévoré Gary, et ça a été pour moi un très grand choc dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il est, dans cette difficulté d'être, avec surtout, et ça rejoint un peu la question de l'icône, dans l'incompréhension qu'on peut avoir de cette icône, c'est-à-dire que pour moi, Gary, qui est dans le panthéon des plus grands écrivains, qui est un homme tellement extraordinaire, comme je vous le disais, et qui se suicide quand même. Et de rester sur cette incompréhension, de se dire pourquoi le suicide, pourquoi, comment est-ce qu'un homme aussi extraordinaire, avec une vie aussi incroyable, peut y mettre un terme. Et dans cette incompréhension, je crois que c'est la définition des grands génies qui nous dépassent complètement par la difficulté à se comprendre eux-mêmes, ou leur incapacité à se comprendre comme on peut imaginer nous les comprendre eux.
Dans la littérature plus ancienne, vous avez des icônes.
J'ai dans la littérature plus ancienne des icônes dans la littérature russe. La littérature russe m'a énormément marqué, probablement par mes origines. Ma famille vient de Russie, mon arrière-grand-mère dansait à la cour du tsar, et puis ils se sont enfuis au moment de la Révolution. Mon grand-père et mon grand-oncle sont nés pendant la fuite vers la France. Et j'ai gardé de ces récits qu'on a pu me faire de cette famille de l'époque du tsar une fascination. Et j'ai découvert dans la littérature russe peut-être un pont qui m'a permis de rejoindre ça. Et Dostoïevski, pour moi, a été une icône absolument incroyable, et notamment par un de ses livres qui est moins connu que les autres, qui s'appelle « Les pauvres gens », et qui est une histoire absolument extraordinaire, qui fait partie des premiers livres qui m'ont fait pleurer, et avec lequel j'ai un attachement et une tendresse immense. Et pour moi, il m'a ouvert la porte d'une littérature existante, c'est-à-dire d'une littérature que j'ai découvert aussi de façon même presque plus intense avec « Guerre et paix ». Ensuite, où Tolstoï n'est peut-être pas une icône, parce que je n'ai peut-être pas été marqué autant, mais c'est une littérature qui a ce côté extraordinaire, c'est que vous ne comprenez pas toujours tout. Vous ne comprenez pas, et surtout quand je les ai lus, qui est qui, parce qu'ils ont les mêmes noms ou les mêmes prénoms, mais est-ce que elle, c'est la fille ou est-ce que c'est le frère? Et on est un peu perdu, et pourtant, on est absolument emmené dans ce monde-là. On a l'impression qu'on ouvre le livre, et qu'en ouvrant le livre, un monde s'ouvre à nous, dans lequel on entre, et on sent les odeurs, on sent la chaleur, on sent le froid, on sent ces personnages, on frémit, on vibre. Et ça, pour moi, c'est la définition de ce qu'est un grand roman, c'est-à-dire que c'est une vie dans la vie. C'est une parenthèse de l'existence pour mener une autre vie, peut-être plus forte et plus grande.
Quand vous écrivez, c'est-à-dire au jour le jour, 8 heures par jour, enfermé, et que vous ne savez pas où vous allez en commençant le matin, est-ce que vous êtes guidé par des icônes? Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident à trouver un chemin, ou vous êtes seul?
On n'est jamais seul, je crois, parce qu'on vit avec tous les fantômes et tous les gens qui nous ont fait. Non seulement les parents qui nous ont génétiquement et physiquement fait, mais tous les proches qui nous ont guidés. Et moi, j'ai toujours, presque tous les jours, en tête mon grand-oncle, qui a été un homme très important pour moi, et qui est décédé en 2012, et qui s'est installé dans mon esprit un peu plus tard. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à me mettre vraiment à l'écriture, je pensais aux grands écrivains, à Gary, à Cohen, à d'autres, en me disant « mais qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, le matin, quand ils arrivaient? Est-ce qu'ils tournaient en rond? Est-ce qu'ils fumaient une cigarette? Comment ça marchait ?» Et puis finalement, je me suis tourné plus vers mes sentiments à moi, et en pensant non pas au rituel de l'écriture, mais au rituel de la vie, c'est-à-dire au sujet, aux pensées. Et je me suis retrouvé à être très souvent en train de me référer à mon grand-oncle, qui était un penseur, qui était un intellectuel et qui était un homme de la réflexion sur les sujets du monde. C'est-à-dire que les sujets du monde le tracassaient, la marche du monde, l'histoire de l'humanité, ce qu'on vivait aujourd'hui. Et c'est vrai que je me retrouve souvent, avant d'écrire, à lire le journal, à lire les journaux, mais non seulement pour les lire et pour être dans l'information, mais pour être aussi dans la réflexion sur ce que ça signifie. Parce que l'information est évidemment un événement qu'on nous rapporte, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après, c'est ce qu'on peut en faire. C'est cette information qui devient un savoir, qui devient quelque chose qu'on met ensemble. Et mon oncle faisait souvent ça. Et donc je me réfère à lui en me posant la question de pas qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, quel mot j'ai envie de mettre, mais qu'est-ce que je veux raconter aux gens? Qu'est-ce qui me tracasse? Qu'est-ce que je veux partager? Et puis Bernard aussi, parce qu'à chaque fois que une question vient, Bernard de Fallois est celui qui me vient en tête quand je dois résoudre un problème, quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans le livre ou dans la vie.
Vous lui parlez encore?
Et je lui parle encore et je me dis qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors il n'est plus là physiquement, mais il est quand même dans mon bureau. Il y a en tout cas 4 photos de lui. Plus ou moins une devant, une à gauche, une à droite, une en arrière. C'est un hasard qu'il y en ait 4 comme ça, mais je crois que où que je regarde, il est là, et dans les 4 directions possibles, et il reste pour moi vraiment la personne probablement la plus importante, pas par rapport au succès. Il a cette importance parce qu'il a été celui qui a cru en moi, qui a créé ce succès, qui a fait ce succès, c'est son succès, je vous le disais avant, mais pour moi, par rapport à ce qu'il m'a appris de la vie, à cette façon de vivre, à cette façon de considérer les autres, à cette façon d'être dans la société, dans l'humanité. Il avait cette capacité à raisonner, à faire raisonner, à interroger. C'était un homme d'affaires, je crois, très, très difficile, très fort. Et en même temps, sa façon de gérer ses affaires, et je l'ai vu, c'était toujours d'une façon douce, presque tendre. Il avait cette force de l'esprit et cette force de l'âme qui, si un jour je pouvais en avoir ne serait-ce que le dixième, je me dis que ce serait déjà peut-être quelque chose de bien.
My funny Valentine, sweet comic Valentine.
Joël Liker, en dehors de vos icônes liées à la littérature et à votre environnement personnel, ce qu'il y a dans d'autres domaines, la musique, la peinture, des icônes?
Oui, il y a Hopper dans la peinture. Edward Hopper est un peintre qui m'a fasciné, qui m'a toujours fasciné par ce qu'il ne montre pas. C'est-à-dire, on voit un tableau de lui, on peut admirer ou pas sa façon de représenter une scène, et pourtant, on se rend compte en s'arrêtant sur ces tableaux que ce qui nous frappe, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qui nous frappe, c'est l'interrogation. Et c'est pour moi quelqu'un qui a réussi à mettre l'art au sens de la création par l'autre. C'est-à-dire que dans un roman, vous avez ça, vous êtes lecteur, c'est-à-dire que vous créez, vous, une histoire. Vous êtes le maître du livre, c'est le lecteur qui a le pouvoir. Le romancier, il met à disposition des personnages et une intrigue, mais c'est vous, lecteur, qui imaginez ça. Hopper fait exactement ça. Il est capable, en tant que peintre, de vous mettre au centre d'une intrigue, au centre d'une interrogation, et de vous faire, vous, créer le tableau. Et quand vous regardez un tableau de lui, ou quand quelqu'un d'autre est là et que vous lui demandez « qu'est-ce que tu vois là ?», il va vous dire tout sauf ce qu'on y voit vraiment. On n'y verra pas ou la maison ou la voiture, on y verra des interrogations, des sentiments, avec cette force de la littérature aussi, qui est qu'on retrouve au fond une projection de soi-même. Parce que ce qu'on voit dans le tableau, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, mais ce que notre esprit voit, c'est ce que notre esprit voit par rapport à nous. Donc on est toujours dans une réflexion sur soi, et je trouve que c'est un élément très important dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde très connecté, très Internet, très WhatsApp, très Instagram, très réseaux sociaux, c'est-à-dire toujours l'autre, toujours en connexion avec l'autre, toujours la validation par l'autre, toujours la recherche de l'autre. Mais où est-ce qu'on est, nous, au fond? Où est-ce qu'on est, nous, quand on rentre le soir et qu'on est seul face à nous-mêmes? Qu'est-ce qui reste de nous-mêmes? Et l'introspection est un exercice qui nécessite qu'on le fasse un peu et qu'on le pratique un peu pour le maîtriser. Et si on ne le pratique pas et qu'on ne le maîtrise pas, on se perd un peu. Et je trouve que la peinture, entre autres, et Hopper est le peintre le plus évident pour ça, nous permet de le faire. La littérature nous permet de le faire. Picasso nous permet de le faire aussi, mais d'une façon plus compliquée, parce qu'il faut connaître un peu l'œuvre de Picasso pour se rendre compte que ce qu'il veut nous montrer à la fin de sa vie, par le cubisme entre autres, ce qui est probablement le plus marquant, en tout cas ce qui reste le plus de lui, c'est la vision qu'on a, nous, d'un objet. Quand on voit le violon ou le personnage, on a la vision qu'on se fait, non pas la vision réelle avec la dimension et la perspective exacte, mais ce qu'on a dans notre tête. Picasso rentre dans notre tête. Hopper nous permet de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes.
Et en musique?
Et en musique, j'ai adoré le jazz. J'ai eu la chance d'entendre parmi les plus grands jazzmen de mon époque, grâce à mon père qui était faire une musique, et qui l'est toujours d'ailleurs, et qui m'a emmené écouter des gens absolument incroyables. Et je garde le souvenir de concerts qui m'ont marqué de Michel Petrucciani, qui font probablement partie des plus beaux moments de ma vie. De l'avoir vu sur scène, d'avoir vu le prodige de la musique, de voir cet homme qui arrive sur scène avec ses cannes, avec cette difficulté de marcher, avec ce corps meurtri, ce physique. On sent une difficulté physique à l'existence, et le voilà qui s'assied et qui se met à jouer. Et là, un moment absolument extraordinaire. Michel Petrucciani n'existe plus en tant que ce qu'il est, et ce qu'on pourrait imaginer, ce qui marquerait les gens si on le voit dans la rue. Il existe parce qu'il nous fait penser de nouveau, parce qu'il nous fait vivre. C'était un pianiste absolument extraordinaire. C'est d'ailleurs un des musiciens que j'écoute le plus souvent quand j'écris, parce que je mets toujours de la musique quand j'écris, pour me créer une bulle, pour être dans un moment qui est à moi ou qui me sépare vraiment de l'extérieur, des sonneries de téléphone, du bruit ambiant. Et je mets de la musique et souvent, très souvent, je le mets lui. Et la particularité que j'ai quand j'écoute une interprétation ou un de ses morceaux, mais quand c'est lui qui joue, c'est que non seulement j'ai la musique, mais j'ai un peu une vision de lui en arrière-plan. Je crois que je l'ai vu en tout cas 3-4 fois. Et je le vois pendant ses concerts, alors que j'étais encore jeune enfant, mais j'ai cette vision encore très forte de le voir et de le voir jouer, de voir cette facilité. Et l'art est ça, qu'on écrive ou qu'on peigne ou qu'on joue. L'art, c'est donner l'impression à l'autre que ce qu'on est en train de faire est très facile, alors que c'est pourtant d'une complexité absolue, mais que l'autre qui nous voit se dise « mais moi aussi je pourrais le faire ».
Est-ce que, après l'énigme de la chambre 622, vous avez déjà commencé à écrire le sixième roman ?
J'ai commencé à me poser la question de l'envie, si j'avais envie d'écrire. Et la réponse est oui. Et donc, je suis en train maintenant, comme j'écris sans plan et que j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le livre, après être sûr que j'ai vraiment envie de me lancer dans une aventure, je dois commencer à écrire absolument tout et n'importe quoi jusqu'à ce qu'une idée vienne. Et donc, c'est un moment pas très agréable, qui ne m'inquiète plus
c'est
beaucoup.
Un moment
au début,
de doute,
ça me stressait.
Hein,
plus de doute. Avant, je doutais beaucoup. Ça m'angoissait énormément parce que je me disais, mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai aucune idée. Alors que là, c'est devenu un moment qui n'est pas tellement de doute parce que c'est pas un doute anxiogène. C'est évidemment le doute de pas savoir très bien ce qu'on va faire, mais c'est pas un doute anxiogène. C'est surtout un moment très barbant, mais dont je sais qu'il est un passage obligé et impératif et qui va me permettre de me lancer dans le roman. Et je passe plusieurs heures par jour, 6, 8, pas 12, là, mais 6, 8, à attendre que le temps passe, à dessiner sur une feuille, à écrire des suites de mots. Et je sais qu'à un moment donné, ce déclic va avoir lieu. Mais pour en arriver là, il fallait se poser avant, comme je disais avant, la question de l'envie, de dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ?
Merci beaucoup.
Merci.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.